L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous et à toutes, à nouveau sur FM+. En tout cas, je vous le souhaite d'être resté avec nous et de continuer avec nous dans ce studio. Marie-Claude Siakezak, bonjour Marie-Claude.
Et bonjour Guylaine.
Et puis Sabine Perrier-Bonnet pour sa deuxième venue.
Bonjour.
Merci bonjour à vous Sabine. De continuer avec nous. Alors, dans la première émission de la semaine dernière, nous avons traversé l'Afrique en truck, eh bien oui, jusqu'à Londres. Nous avons fait une petite halte à Arles et nous sommes repartis avec vous, Sabine Perrier-Bonnet, munie de diplômes en médecine tropicale et pour exercer finalement dans un dispensaire au Darfour.
Dispensaire au Burkina Faso.
Au Burkina Faso. Oui. Et puis, voilà, pour exercer finalement ce que vous aviez appris. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Cette spécialisation médicale, on va dire, va encore plus être pointue avec un travail peut-être en France. Mais racontez-nous comment vous allez réintégrer ce continent africain.
Alors, je suis très contente de revenir sur Montpellier, ma ville de naissance. Et j'ai eu le plaisir de travailler à Épidaure, c'est-à-dire au centre de lutte contre le cancer qui s'appelait...
De
Val d'Aurel, voilà, qui était
centre,
à côté, qui s'appelle maintenant l'ICM. Et j'avais eu le plaisir de travailler avec la responsable, la directrice d'Épidaure à l'époque, qui s'appelait le professeur Hélène Sancho-Garnier. Et elle m'avait proposé d'aller dans les pays du Nord à un congrès de l'Union internationale contre le cancer. Et c'est comme ça qu'a commencé une nouvelle étape dans ma vie. Vous voyez que l'imprévu existe aussi à Montpellier, à l'ICM, à deux pas d'ici. Et c'est là également que j'ai rencontré Marie-Claude, parce que je pense qu'il faut faire un lien avec ce que nous faisons aujourd'hui ensemble. Et de là, j'ai rencontré l'UICC et de là, j'ai rencontré beaucoup de personnes. C'est l'intérêt des congrès médicaux et en particulier un organisme qui s'appelait l'INCTR, International Network for Cancer Treatment and Research. C'est un peu compliqué, mais
c'est... Tu as fait des progrès en anglais depuis ton séjour, mes séjours, les autos.
Voilà. Et donc, à partir de là, nous est venue l'idée de créer une branche francophone pour les pays francophones qui sont, comme vous le savez, essentiellement africains. On a plus de 22 pays francophones sur le continent africain. Et de là est venu donc, avec le professeur Guy de Thé, qui était un grand virologue parisien qui travaillait à l'Institut Pasteur, de créer une association qui s'appelle encore l'Alliance mondiale contre le cancer. Et de là, j'ai dirigé cette association ici à Montpellier, à Val d'Aurel, à ICM maintenant on dit. Et de là, j'ai repris le travail en direction de l'Afrique, puisque dans les débuts du 21e siècle, la cancérologie était peu développée. Et ce que je peux dire qui est assez fort, c'est que le mot cancer n'existait pratiquement pas en langue locale. Donc c'était une maladie, comme pour nous, qui était un petit peu nouvelle et difficile. Et donc nous avons commencé par faire des formations. On allait en Afrique, on partait avec des équipes médicales, montpelliéraines, parisiennes, des gens très compétents, et on organisait des petites formations sur le continent africain en français pour promouvoir la cancérologie. Et donc ça a été un travail pendant plusieurs années extrêmement intéressant, sachant qu'à l'époque il y avait une seule formation offerte pour les médecins en cancérologie, c'était à Brazzaville, au Congo, avec le professeur Charles Gombé, que je salue, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et puis, également au Cameroun, il y avait le professeur Paul Nome, qui était un grand promoteurs de la lutte contre le cancer. Et avec ces deux hommes extraordinaires, nous avons essayé de faire progresser un petit peu les choses. Et pour moi, ce qui a été très, très intéressant, c'est qu'au Cameroun, on a essayé d'ouvrir à ces congrès de cancérologie, ouvrir la porte aux infirmières qui n'y avaient pas accès. Et je me souviens que c'était à Yaoundé, au Cameroun, avec Paul Dome, que ce grand cancérologue a eu le courage de dire « on va faire des formations pour les infirmières ». Et ça a été quelque chose qui était une petite ouverture de porte et qui aujourd'hui est un fait acquis pour tout le monde. Donc ça, ça a été les débuts, je dirais, de notre petite participation pour la lutte contre le cancer en Afrique. Et les choses sont allées très vite avec l'Internet, avec la communication qui s'est développée comme un feu dans nos pinèdes en été. C'est allé très vite et du coup, assez rapidement, grâce aussi à la rencontre avec Marie-Claude, au Burkina, est arrivé quelque chose d'important, c'est que soigner le cancer, les médecins se forment, savent le faire, les infirmières apprennent à faire ce qu'il faut, mais il y a un point extrêmement important qui reste aujourd'hui encore un gros, gros souci, c'est la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs. Et donc, dès le début des années 2000, avec Marie-Claude, avec des oncologues montpelliérains, avec des infirmières également, avec des personnels très qualifiés, nous sommes partis en Afrique former et essayer de voir comment on pouvait faire avancer la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs. Et pour vous expliquer un petit peu ce pourquoi qui nous a vraiment, en tout cas avec Marie-Claude, beaucoup stimulé dans ce travail, c'est l'exemple que j'ai pu voir à Brazzaville. Il y avait une association qui s'occupait des soins palliatifs. On était allé faire une visite à domicile et rencontrer une dame qui avait un cancer du sein et qui nous expliquait qu'avant qu'on puisse s'occuper d'elle, lui soulager la douleur, elle avait une énorme tumeur qui était, je m'excuse des détails, mais c'est important, qui sentait mauvais, parce qu'une plaie qui n'est pas soignée sent mauvais, puis elle avait très très mal. Et en Afrique, vous pouvez comprendre, il y a aussi beaucoup de mouches, donc tout ça, c'était un ensemble qui fait que son mari était parti, ses enfants étaient partis, plus personne ne venait la voir. Et lorsque cette association qui travaillait sur place a pu lui donner des médicaments pour lutter contre la douleur, on lui a fait un pansement, on l'a soignée, on l'a lavée, elle allait bien. Et j'ai pas tout est revenu en ordre, mais les amis, la famille, les enfants sont revenus à domicile. Et ça, c'est une preuve que c'est quelque chose de très, très important. Donc ça a été notre objectif pendant des années, et ça l'est encore sur le continent africain. Et le plus grand problème auquel nous avons été confrontés, qui reste d'actualité, c'est la peur terrible vis-à-vis du traitement à base de morphine, qui demande à ce que les médecins fassent des prescriptions. S'il n'y a pas de prescription, ben les pharmacies centrales, les gouvernements ne peuvent pas commander de la morphine. Et également prescrire, mais aussi rassurer les familles et savoir pallier les effets secondaires de la morphine, parce que si on prend de la morphine comme traitement antidouleur pur, il y a des soucis, puisqu'il faut prendre des traitements à côté pour éviter la constipation et d'autres facteurs de ce genre. Donc on a lancé un grand chantier sur les quelques pays francophones, et avec beaucoup de difficultés, parce que nous voulions promouvoir un traitement contre la douleur qui soit à la portée financière de la population. Parce que dans les pharmacies des capitales en Afrique, aujourd'hui encore, on a beaucoup, beaucoup de médicaments. Il y a tout ce qu'il faut. Si on a une ordonnance, on peut avoir des médicaments, mais ça coûte très cher et c'est donc réservé.
Il n'y a pas de sécurité sociale.
Il n'y a pas, oui, c'est bien de le préciser. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de mutuelle. Donc tout est à la charge des familles et c'est très cher. Et donc c'est resté quelque chose de difficile. Et puis pareil,
je reviens sur cette extraordinaire vie en Afrique où il y a de l'imprévu. Et un jour, j'ai rencontré un médecin d'origine anglaise, une anglophone, qui vivait en Ouganda et qui, depuis 1993, faisait la promotion des soins palliatifs en Ouganda, à Kampala, financé par les Américains, pour, au départ, la lutte contre le sida, puisque l'Ouganda avait été le premier pays africain à dire « bah oui, j'ai plus de 30% de ma population qui a le sida ». Donc, il y avait eu beaucoup d'argent donné pour la lutte contre le sida et donc les soins palliatifs. Et cette médecin extraordinaire, le docteur Anne Merriman, avait mis en place une recette de transformation de la morphine en poudre, en morphine orale, qu'on mettait dans des petites bouteilles, comme les petites bouteilles de Saint Pellegrino, d'Evian, qu'on peut avoir encore aujourd'hui. Et on mettait de la morphine dans ces petites bouteilles, et ça permettait de soigner, ça permet de soigner, c'est encore d'actualité, la population avec des traitements de un mois, différenciés. Pédiatrie, les enfants et adultes. Et de cette rencontre est arrivé quelque chose d'extraordinaire, c'est que depuis 2012, nous avons pu organiser des formations de personnel soignant, médecins et infirmières, pharmaciennes, sages-femmes, tout le corps médical. On leur a proposé des formations à Kampala, donc dans un pays anglophone, mais avec 3 semaines de cours en français. J'ai pu traduire tout ce qui était fait en anglais, les traduire en français. Avoir des enseignants en français, des enseignants francophones et un peu anglophones aussi. Et d'avoir 2 semaines de stage pratique, de visite à domicile également prévue. Donc une formation de 5 semaines qui s'est faite Chaque année, jusqu'à l'arrivée de notre dernière pandémie, où là, il a fallu changer les modes de formation. Et du coup, nous avons formé, en prise en charge de la douleur et en soins palliatifs, des centaines de soignants francophones. Mmh. Voilà.
Et alors, ce qui est passionnant, justement, dans ce qu'on a pu faire, au Burkina surtout, puisque bon, après on est allé au Niger, mais pays francophone, ce qui est passionnant, c'est cette collaboration, cette coopération avec les Africains. Et d'ailleurs, voilà, quand Sabine parle de finalement transformer cette morphine en produit buvable, etc. Alors que c'est un, voilà, c'est quand même assez extraordinaire que du coup, grâce à l'impulsion des uns, on reçoit une impulsion des autres, etc. Il y a une espèce de réciprocité. Et dans ces formations, c'était vrai que c'était assez extraordinaire, quoi, les échanges qu'on pouvait avoir et la richesse que ça, voilà. Surtout aussi la richesse interculturelle, parce que j'ai souvenir d'un atelier qu'elle avait, que Sabine avait organisé à Bobo, hein, au Burkina, où il y avait une dame qui nous avait expliqué qui intervenait en brousse à domicile dans une famille et qui nous a expliqué que, justement, parce qu'il y avait eu ces échanges aussi qu'on avait pu en parler, que dans une famille, il y avait une femme qui avait un cancer féminin, donc qui saignait. Et cette femme donc, avait été mise à nouveau pareil à l'index, dans un logement à part, parce qu'elle saignait, que le sang c'est impur, et il n'y a pas que d'ailleurs, voilà, il y a d'autres, même des religions où on dit que c'est impur, et que finalement, grâce aux explications, et pareil, au fait de fournir des protections, etc., ça avait permis à cette femme de réintégrer sa famille. Donc pour dire que vraiment, cette espèce d'interactivité, et puis cette connaissance peut-être un peu mieux du terrain, qui permet peut-être de mieux argumenter les choses, c'est quelque chose qui est très productif et où nous aussi on y retrouve notre compte parce qu'on reçoit des leçons, on a des enseignements. Ne serait-ce que déjà de se rendre compte que ben nous on se pose pas la question, on a un traitement, et ben c'est la sécurité sociale qui paye, alors que là-bas c'est toute la famille qui doit vraiment se cotiser. Donc c'est sûr que c'est extraordinaire et que ce que Sabine continue à faire en plus de former, elle ne fait qu'ouvrir. Finalement, pour ces gens-là qui sont ouverts aussi, elle ne fait qu'ouvrir encore des pans de compréhension et des lumières vers les solutions à des problématiques pas faciles. Voilà.
Et surtout, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de faire découvrir aux francophones le côté des pays anglophones, puisque de plus en plus les médecins francophones d'Afrique francophone parlent anglais, hein, puisque c'est devenu la langue internationale, et du coup leur faire découvrir qu'il y avait des richesses, il y avait des modes de vie différentes, des modes de soins différents, il y avait la notion de visite à domicile. En brousse, et beaucoup de médecins venant des capitales francophones, de pays africains francophones, n'avaient jamais eu cette vision-là. Et c'est peut-être la chose la plus remarquable que j'ai pu en déduire, c'est de permettre aux Africains de comprendre la richesse de leur continent, de comprendre la richesse qu'ils ont à se connaître de part et d'autre sans la barrière de langue. Parce que s'il y a bien quelque chose, je le dis avec beaucoup de modestie, moi je ne suis pas très bonne en langue, mais alors s'il y a bien un peuple qui a une facilité extraordinaire en langue, c'est bien les Africains. Et j'ai toujours été médusée de voir à quel point ils ont une mémoire extraordinaire et une facilité d'apprentissage des langues et du coup de relations interfrontières qui est absolument remarquable. Et donc ça a été pour moi une belle leçon et aujourd'hui nous n'avons pas beaucoup avancé. Je dis toujours avec amusement et Marie-Christine et Marie-Claude est dans le même bain. On sème des graines et on espère que la saison des pluies sera bonne pour que ça puisse germer et donner de bonnes récoltes. Mais je pense qu'on a ouvert des portes sur cette nécessité de prendre en charge la douleur parce que très honnêtement aussi un petit détail qui m'a beaucoup frappée. Je pense que les Africains sont capables de résister à la douleur mille fois plus que nous.
C'est impressionnant.
Ils sont alors j'aime bien le mot en anglais, amazing. C'est vraiment pour moi extraordinaire. Et du coup, dans le traitement de la douleur, c'est pas scientifiquement prouvé, mais je dirais ils ont besoin de moins de la moitié que nous par rapport à la force et le courage qu'ils ont face à la douleur et du coup ces traitements dont je parle hein, et puis il y a un organisme qui s'appelle Hospice Africa Ouganda, il y a son équivalent en France, Hospice Africa France, vous pouvez aller voir sur internet leur site, qui explique qu'on peut traiter la douleur, que ça soit une douleur chronique, quelle que soit la maladie non transmissible, traitement du sida, du cancer, mais aussi de ça peut être de toute autre pathologie. Et ce qui est important, c'est de dire que pour je peux l'affirmer avec les chiffres aujourd'hui d'Ouganda, pour moins de 3 euros, donc je dirais moins de 2500, 3000 CFA par mois, on peut soulager la douleur avec une petite bouteille, ce qu'on appelle nous de l'eau minérale, mais remplie de morphine orale, et on soulage la douleur. Et du coup, en Ouganda, comme dans les pays limitrophes, hein, Tanzanie, Kenya, Rwanda aussi, les familles viennent chercher la petite bouteille et la personne, pendant une semaine, pendant un mois, peut être traitée. Et à Kampala, la capitale de l'Ouganda, je peux le dire, ont voyagé et le docteur Merriman, ce grand docteur à l'origine de ce projet, avait dit « Ah, vous voyez ce gendarme-là qui fait la circulation, ben, il est sous morphine depuis 5 ans.
Ouais. »
Il était malade, mais il pouvait travailler, il avait le soulagement de sa douleur, il pouvait continuer à travailler et il avait une espérance de vie qui était de ce fait très, très grande. Donc ça a été, et c'est encore aujourd'hui, je dirais, l'intérêt que j'ai le plus important, c'est d'essayer de réunir dans les pays tous ceux qui sont, je dirais, concernés par la cancérologie, mais aussi par toutes les maladies non transmissibles, qui veulent faire quelque chose, moi je trouve important de pouvoir aller les voir, leur permettre de communiquer, essayer de leur donner des cartes en main par rapport à l'Europe, les pays occidentaux, par rapport à des financements potentiels que l'on peut trouver, et puis permettre ainsi aux médecins, spécialement je pense à eux, de pouvoir rester sur un piédestal, de pouvoir continuer à pouvoir accueillir les familles, les patients, pouvoir leur donner une ordonnance avec des produits qui sont efficaces et abordables, à prix abordable, et qui puissent rester la personne de référence pour la lutte contre la douleur et les soins palliatifs, parce que malheureusement, sans la possibilité de pouvoir soigner la douleur, ils sont obligés d'avoir une stratégie d'évitement. Ils sont obligés de fuir malheureusement les familles parce que, bien sûr, ils peuvent faire une ordonnance, mais quand le médicament coûte une fortune, les trois quarts, enfin, hein, Marie-Claude, je pense que les trois quarts de la population ne peuvent pas aller
déjà,
à la pharmacie.
Ils ont du mal quelquefois à se souvenir des médicaments de base.
Tout à fait. Et je trouve important, grâce à ce que nous essayons de partager, parce qu'on a bien sûr des moyens très limités, mais partager cette expérience, leur faire connaître qu'il est possible de lutter contre la douleur, qu'il est possible d'accompagner les personnes pour qu'ils puissent partir dans la dignité, sans souffrance. Je pense qu'on a un rôle extrêmement important, simplement pour essayer de, dans l'ombre, derrière les médecins, derrière les soignants, leur dire courage. Si on peut arriver à mettre en place ce projet dans tous les pays francophones, ce sera une grande victoire.
Et c'est d'autant plus facile pour nous d'en parler que là, Sabine dit bien qu'il y a aussi toutes les questions financières, etc., puisqu'il n'y a pas de sécurité sociale. Mais au-delà de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, la France a connu les résistances énormes de soulagement de la douleur. Il y avait quand même, donc on
c'est
sait bien
encore
que
d'actualité.
Oui, il y a encore c'est des encore résistances, c'est aussi c'est culturellement, religieusement, etc. Enfin, la douleur, un peu comme on peut retrouver en Afrique avec une culture différente, mais voilà, des lectures des choses, et il y a quand même eu, et c'est vrai que quand Sabine parlait d'anglophones et francophones, moi j'ai beaucoup travaillé dans les soins palliatifs, et c'est vrai que les pays anglophones, et ça a commencé d'ailleurs en Angleterre, entre autres, vraiment, les pays anglophones ont toujours eu plus d'avance et ont une vision différente justement de soulager la douleur, quoi. Donc cet échange, on peut l'avoir. Ouais. Et nous, on peut dire justement à nos collègues là-bas, aux soignants, etc., ou même aux gens. Mais oui, chez nous, c'était comme ça aussi, tu sais, etc. Donc ça peut aussi encourager et à chercher des solutions de meilleur marché, parce que là-bas, c'est là-bas le gros souci dans les familles, quelquefois, pourquoi on abandonne son malade, c'est parce qu'on peut même pas, on n'a plus de quoi le soigner. Tout le monde s'est ruiné, on a fait des emprunts partout, on a tout vendu, il reste plus rien, le champ, la mobilette, enfin voilà. Donc effectivement, et dans ces échanges-là, il y a cette réciprocité-là, c'est passionnant, quoi.
Et quel serait le pays qui serait le plus prioritaire dans cette action sur les soins palliatifs? Ou est-ce que vous ne voyez pas les choses comme ça?
Je vois absolument pas par pays. Ouais. C'est une approche globale, c'est une approche communautaire, c'est de la santé communautaire. On essaye, grâce aux relations qu'on a, de transmettre des messages, de transmettre des liens Internet qui pourraient aider. J'anime par exemple un forum palliatif, qui est un forum que l'on a sur Internet, tout en français. On essaye de partager, mais on cible personne.
Communautaire, vous voulez dire par là, communautaire dans le sens médical, communauté médicale, communauté de soins, communauté d'infirmières.
Tout à fait. Une communauté, il n'y a pas un pays cible. Il y a des pays déjà qui avancent bien. On va aller travailler au Bénin cette année, j'espère, pour être dans ce sens. Le Sénégal est très en avance. Et beaucoup de pays pourraient être très en avance si la conjoncture était un petit peu plus facile. Mais pour nous, ce qui est important, c'est globalement de faire avancer l'idée ouais. qu'on peut faire quelque chose. L'idée que on ne peut pas les aider, c'est à eux de trouver leur chemin, c'est à eux de trouver le moyen de soulager la douleur. Par contre, parce qu'il y a aussi des plantes qui font du bien, hein, on se met bien un clou de girofle dans une carie, nous-mêmes en France, donc il y a beaucoup de choses possibles. Ce qui est important pour moi, c'est le modèle. Hein. Mon amie pharmacienne qui travaille à Genève continue à préparer de la morphine orale. On ne le fait plus en France. Hein. En France, c'est tous les laboratoires médicaux qui donnent des comprimés. Mais en Suisse, on continue à avoir des ordonnances où on demande des préparations de morphine orale. Donc cet exemple-là, quand on dit que oui, à Genève, on fait ça, ben, je peux vous dire que ce soit à Yaoundé, à Ouaga ou à Bamako, on dit « Ah !» Voilà, donc ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé ou qu'on aurait fait dans nos pays il y a très longtemps. En France, oui, hein, mais bon. Donc du coup, c'est vraiment leur montrer que c'est ce qu'il faut faire. Mais après, ça s'arrête là. Ça s'arrête là et je pense que nous resterons très humbles devant l'énorme difficulté que doivent qu'affronte tout le personnel soignant en Afrique. Et je pense simplement que il y a une très jolie chanson qui dit à deux pas de chez toi, va t'en voir tes voisins. Et j'ai envie de dire aux francophones, comme aux anglophones ou lusophones, hein, je pense qu'à toute la population africaine, ils ont beaucoup de richesses sur leur continent, ils ont beaucoup de gens extraordinaires. J'ai rencontré des grands professeurs absolument remarquables et qui nous donne envie de continuer, qui nous donne envie de dire, allez-y, vous allez trouver votre chemin. Il y a beaucoup maintenant, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de liens possibles. Et puis, j'oublie pas un aspect important qui est très fort à Montpellier, il y a une diaspora africaine importante en France qui peut également être là pour appuyer nos messages vis-à-vis de la prise en charge des soins, vis-à-vis de la prise en charge des cancers, hein, de la douleur, parce que on cache beaucoup de choses quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on n'a pas beaucoup de moyens. Et je pense qu'il y a un modèle de paroles que l'on peut donner. Et je voudrais vraiment terminer par quelque chose qui m'avait beaucoup touchée avec Marie-Claude et qui est ici présente. C'est que lorsqu'on avait parlé de cancérologie, de difficultés de prise en charge, hein, avec cette stratégie d'évitement qu'avaient beaucoup les médecins parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de choix, ce qui avait été extraordinaire, c'était ce qu'avait créé et organisé Marie-Claude et qui, j'espère, continue encore, en tout cas au Burkina Faso, c'est la création de groupes de parole entre soignants qui permet de poser le fardeau sur la table, de le partager. Et j'avais trouvé ça absolument extraordinaire pour permettre de retrouver la force de continuer à soigner alors qu'on est totalement diminué. Ça, je me mets à la place de l'infirmier, du médecin qui ont une charge absolument monumentale, encore aujourd'hui, je pense, pour beaucoup.
Oui, et c'est vrai que les groupes de parole, considérer la parole comme un outil de soin. C'est parce que la parole en Afrique, bien sûr, on n'invente rien, mais un outil de soin, c'est vrai que ça marche très très bien. Mm-hmm. Ouais.
Les groupes de parole sera peut-être l'objet d'une prochaine émission, ne sait-on jamais.
Pas
en Afrique. Alors, nous allons nous quitter. Sabine Perrier-Bonnet, merci beaucoup pour être venue là pour deux émissions.
Merci d'avoir accepté de venir.
Merci à Marie-Claude Siakezak pour alimenter par son réseau cette émission. Nous nous quittons, si le temps nous le permet, avec le générique d'un film, Caprice d'un fleuve, de Bernard Giraudot.
Qui avait obtenu le César de la meilleure musique de film. Voilà.
Au revoir.
Ya yo bo yo Yeah, you boy, young guinea.